Ah ben bonjour encore, mes frères et sœurs. Donc, le message d'aujourd'hui que je voulais partager, je l'ai intitulé Face au désarroi, recherchant l'ordonnance de Dieu. Parce que nous sommes dans le désarroi, ça, personne ne peut le nier. Et j'ai pris comme texte de référence le prophète Osée. Donc, si vous pouvez prendre vos Bibles, on va lire un peu Osée au chapitre 4, le verset 6. Le prophète disait en ce temps que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Et il ajoutait, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Alors, retenons un peu ces deux mots, connaissance et sacerdoce. Donc, le sacerdoce, c'est le pouvoir qui nous est donné à nous de faire le service de Dieu. Et la connaissance, c'est en fait la vérité que nous devons avoir avec nous. Devant chaque fois qu'on a une situation, je ne sais pas si vous l'avez remarqué comme moi, la première personne à souffrir, c'est la vérité. Ce n'est pas les hommes que nous sommes, c'est plutôt la vérité, parce que nous avons toujours tendance à porter en torse de la vérité. Or, nous savons bien que la vérité se trouve dans la parole de Dieu. Et c'est cette connaissance-là, nous, qu'il nous faut pour nous approprier l'ordonnance de Dieu, qui est la seule qui peut nous sauver. Revenons-en donc à cette situation, à notre situation actuelle. Nous voyons bien que nous crions partout. Il y a le virus qui sévit. Et il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de choses qu'on nous dit de faire aussi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas obéir aux autorités. Je ne dis pas qu'il ne faut pas demander rendez-vous aux médecins quand on se sent mal. Je ne dis pas non plus qu'il ne faut pas appeler les pompiers, le SAMU, s'il y a quelque chose qui ne tient pas, ni de le prier sur les situations. Ce n'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, moi, aujourd'hui, c'est de repartir à la source. Nous voyons bien que. Nous voyons bien que aujourd'hui même les médecins nous disent, personne ne sait par quel bout saisir ce fléau. Et nous écoutons tous les informations que d'une guerre contre le virus s'ajoutent d'autres guerres. Vous voyez bien la guerre de l'information, qui dit quoi et comment, la guerre de la méthode. Qui disent qu'il faut faire comme ceci, il y en a qui disent qu'il faut, même les médecins eux-mêmes, qui disent qu'il faut faire comme ceci, mais il y en a qui disent non, il ne faut pas le faire. Et il y a même aujourd'hui la guerre des masques, qu'un pays va détourner la commande de notre pays, ainsi de suite. Et personnellement, j'ai été interpellé par cette situation. J'en ai discuté aussi avec beaucoup de frères qui m'ont dit de prier. Et moi, ma question a été toujours de prier, oui, mais on va prier sur quoi? Dans quelle direction? Pour demander quoi à Dieu? Oui, nous devons prier, nous sommes, ça c'est notre vie, mais je pense que dans toute situation, devant notre fatalité, devant aussi notre état d'homme impur, parce que nous savons toujours nos penchants. Nos penchants à nous, par rapport à nos habitudes, par rapport à nos envies, par rapport à notre égoïsme aussi, il faut le dire, il y a un chemin que nous n'explorons pas, c'est celui de Dieu. On explore tous les chemins. J'aurais tout de suite tendance à aller en pharmacie, j'aurais tout de suite tendance à aller discuter avec un médecin, j'aurais tout de suite tendance, je ne sais pas moi, à téléphoner pour demander conseil, je sais pas, XXX. Mais le premier réflexe de téléphoner à Dieu pour dire, que dois-je faire devant telle situation? Eh bien, nous ne nous vient pas l'honneur. Et souvenons-nous que Jésus, de son temps, reprenant la parole du prophète Esaïe, avait dit que ce peuple m'honore du bout de lèvres, mais au fond, dans son cœur, il est bien loin de moi. Et les cultes qu'il me rend n'ont aucune valeur, car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par les hommes. Et Jésus reprenait là donc le texte du prophète Esaïe. Mes bien-aimés, en reparcourant la Bible, en m'interrogeant moi-même, Paul, quand il écrivait à Timothée, on peut le lire dans 2 Timothée chapitre 4 verset 16 de vos Bibles, il disait bien, car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toutes bonnes œuvres. Au-delà de la confirmation que Paul donnait, et Paul nous a invités, en fait, à tout le temps se référer aux Écritures pour pouvoir ne pas dévier du chemin que l'on devait suivre. Et je dirais encore que l'Ecclésiaste, dans son temps aussi, avait dit, on peut le voir, hein, dans le livre des Ecclésiastes, il avait dit que sous les cieux, il n'y a rien de nouveau, parce que tout ce qui existe a existé et qu'on ne se rappelle pas de ce qui a existé. Et cette invite nous incite vraiment à revisiter les Écritures pour voir un peu quels sont les enseignements que l'on peut tirer de ces Écritures, de nos anciens, de leur expérience dans la foi. J'ai eu à cœur de choisir deux personnages, donc Moïse et Jésus. Juste pour rappel, hein, on savait que Moïse savait dire sauver des eaux, connaissant l'histoire. Et il est aussi dans la Bible le premier à être appelé l'homme de Dieu. Je sais qu'il y a eu Abraham. Si Abraham a été le fidèle de Dieu, mais Moïse a été le premier à être l'homme de Dieu. Et qui a à peu près la même stature que Jésus. Parce que Jésus, lui, selon les Hébreux, c'était Jéhovah sauve. Et il est considéré comme le second de Moïse. Donc, ces deux personnages, quand on lit même dans la Bible, Moïse et Jésus, en dehors de Jacob, sont les plus cités dans la Bible. Parce que Jacob, on le retrouve mille et quelques fois, mais vient ensuite Moïse qui a été cité plus de 700 fois. Abraham n'a été cité même que 200 et quelques fois. Pourtant, c'est aussi une personne centrale. Et Abraham est plus considéré comme un ancien, comme notre ancêtre, que comme homme de Dieu dans la Bible. Et c'est pourquoi moi j'ai choisi ces deux personnes qui ont été appelées comme médiateurs. Quand on dit médiateur, donc c'est quelqu'un qui se met entre Dieu et nous. J'ai choisi ces deux personnes pour voir un peu qu'est-ce qu'ils nous ont dit. D'abord Moïse, dans Deutéronome 28-21, chapitre 21, verset 22, voilà ce qu'il dit. L'Éternel vous enverra une épidémie de peste qui finira par vous éliminer du pays dans lequel vous allez entrer pour prendre possession. Il vous frappera de maladies qui vous feront périr, des fièvres et des inflammations de toute nature. Ça, c'est Moïse qui donne l'avertissement. Je n'ai pas lu tous les chapitres, je ne récite pas tous les chapitres, mais il disait, si vous vous écartez de Dieu, voilà ce qui vous arrivera. Par contre, si vous suivez la ligne de Dieu, ben, ces choses, vous pouvez vous en épargner. Et puis, Jésus. Dans Luc chapitre 21, Il en parle aussi dans Matthieu. Moi, je préférerais prendre le verset de Luc, le livre de Luc, chapitre 21, verset 20. Il dit, quand vous entendrez parler des guerres, des soulèvements, ne vous effrayez pas, car tout cela doit arriver d'abord. Mais la fin du monde ne viendra pas aussitôt après. En fait, il nous disait, n'ayez pas peur, ces choses doivent arriver. Et au verset 13, il donne aussi la conduite à tenir. Ces choses vous arriveront pour vous donner l'occasion d'apporter un témoignage. Chapitre 14, ayez donc cette ferme conviction que vous n'aurez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi, en effet, qui vous donnerai des paroles qu'aucun de vos adversaires ne pourra refuter et une sagesse à laquelle personne ne pourra résister. Donc, Jésus nous dit que vous, vous êtes là, vous êtes vainqueur à travers moi et que c'est à vous d'apporter la solution, en fait. Donc, à nous, quand je dis vous, c'est vous et moi, hein, chers frères et sœurs. C'est à nous d'apporter la solution. Mais cette solution n'est pas humaine. Elle est divine. Puisque Jésus est notre intermédiaire, notre chemin, donc c'est à travers lui que nous pouvons avoir. Et alors ces écritures m'ont incité à aller un peu dans l'ancienne alliance. Les uns diraient l'Ancien Testament. Et pour regarder un peu, est-ce qu'il y a eu des phénomènes comme ça qui sont arrivés? Je dirais oui, il y en a eu dans le temps. On peut pas tout prendre. Mais il y a des exemples à peu près similaires. Il y a eu, par exemple, l'exemple de Naaman, hein, mais ça, j'en passe, à qui on a dit, va te jeter dans l'eau. Et il n'a pas voulu, il a douté parce que lui, il pensait qu'il fallait qu'on fasse une intercession. Mais convaincu par son chef de camp, il est quand même parti se jeter dans l'eau et il avait guéri. Par contre, pour tous ceux qui ont précédé dans la foi, moi j'ai choisi donc de prendre un peu l'exemple du royaume d'Israël, parce que c'est de là que vient notre foi, et puis de voir l'exemple des deux frères ennemis. Pour mémoire, vous savez qu'à un moment donné, le royaume a été divisé en deux, donc le royaume de Juda et le royaume d'Israël, et qu'il y avait deux rois. C'est au temps du prophète Miché, et qu'il y avait aussi beaucoup de guerres en ce moment-là, comme on nous dit aujourd'hui, qu'il y a la guerre. Et ils faisaient des alliances. Dans le point de lire dans deux chroniques, à partir du chapitre 16 jusqu'au chapitre 18. Alors, il y avait donc le roi Achab et le roi Josaphat. D'un côté, Achab, lui, c'était tout va en guerre, il faisait confiance à ses conseillers et tout, et il voulait que Josaphat aille avec lui en guerre. Josaphat lui dit, oui, moi je veux bien, mais je ne pars pas tant qu'on n'a pas demandé la volonté de Dieu. Et ça a été quelque chose de très marquant parce que beaucoup de prophètes à cette époque disaient qu'il fallait partir en guerre, qu'ils devaient gagner la guerre. Et seul Miché avait dit non. Il avait dit, voilà ce que moi Dieu me dit, non. Le seul. Et Achab n'était même pas d'accord. La suite, on la connaît. Ils sont partis, eh bien, Achab y est resté parce qu'il est mort. Donc, quelque part, le roi avait donné l'ordonnance qu'on n'a pas exécutée. Et j'ai pris un autre exemple aussi, puisque j'ai parlé de Moïse en avant, chers frères et chères sœurs. J'aurais souhaité qu'on le lise, qu'on comprenne bien mon propos, pourquoi j'ai voulu vraiment partager ce propos. Moïse, du temps de la sortie d'Égypte et la traversée du désert. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, mais il y a un fait très, très marquant qui touche les serviteurs de Dieu que nous sommes, qui touche aussi les enfants de Dieu que nous sommes, donc qui touche tout le monde sur l'attitude que nous devons avoir devant une calamité, devant une situation et devant Dieu lui-même. Moïse avait subi la grogne parce qu'il manquait de l'eau. Les gens avaient soif, il n'y avait pas d'eau. Et les gens donc, se sont pris en Moïse pour vraiment qu'il leur donne de l'eau, qu'il les menait à la perdition. Je vous propose donc qu'on ouvre nos Bibles, qu'on lise un peu dans Exode 17, qu'on lise ce phénomène qui est pour moi très marquant, très éloquent. Et on pourra lire à partir du troisième verset, 17 donc, troisième verset jusqu'à 6. Moi, j'ai la Bible, le semeur, mais le propos reste le même. Donc, il est écrit ceci. Pressé par la soif, le peuple se plaignit de Moïse et dit, pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? Et c'est pour nous faire mourir de soif. Ici, nous, nos enfants et nos troupeaux. Moïse cria à l'Éternel en disant, que puis-je faire pour ce peuple? Donc, nous remarquons là que Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il va demander l'ordonnance à Dieu. Et Dieu va donner cette ordonnance-là. Ils sont sur le point de me tuer à coups de pierre. Et l'Éternel dit à Moïse, pas un, passe devant le peuple et amène-le devant toi, quelques responsables d'Israël. Premier traitement. Deux, prends à la main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil. Troisième traitement. Passe, donc il dit, que tu as frappé le Nil. Et va, quant à moi, je veux me tenir là, devant toi, sur un rocher du mont Horeb. Cinquièmement, tu frapperas le rocher et de l'eau en jaillira, et le peuple pourra boire. La Bible dit que Moïse fit ainsi à la présence des responsables d'Israël. C'est pourquoi on appelle ce lieu l'eau de Meriba. Donc, quelque part, Dieu a donné la procédure, comment il faut y arriver. Le même exemple, donc même phénomène, mais une ordonnance différente. Nous allons partir dans le livre de Nombre, au chapitre 20. Et nous allons lire à partir du cinquième verset. Pourquoi avez-vous fait quitter l'Égypte et venir dans ces lieux de misère? Ici, on ne peut rien semer. Il n'y a rien, ni figuier, ni vigne, ni grenadier. Il n'y a même pas d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour se diriger vers l'entrée de la tente de la rencontre où ils se jetèrent face contre terre. Alors, la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et lui dit, prends ton bâton, premier ordre, et avec ton frère Aaron, rassemblez la communauté, deuxième ordre. Devant eux, vous parlerez au rocher. Voilà, rappelez-vous, la première fois, il a dit, vous frapperez le rocher. Mais là, il dit, vous parlerez seulement au rocher. Ainsi, tu feras jaillir de l'eau du rocher et tu donneras à boire à ta communauté et au bétail. Ça ne s'arrête pas là. Moïse prit le bâton qui se trouvait devant l'Éternel, comme celui-ci le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée. Tout cela s'est bien désigné. Écoutez, rebelles que vous êtes, croyez-vous que nous pourrons faire jaillir pour vous de l'eau de ce rocher? Moïse leva la main et par deux fois, il frappa le rocher avec son bâton. L'eau jaillit en abondance. Hommes et bêtes purent se désaltérer. Alors, ce qu'il faut remarquer, que la même situation, dans les mêmes conditions, Dieu donne deux ordonnances différentes. Et Moïse n'exécute pas correctement la deuxième ordonnance, parce que Dieu ne lui a pas dit de frapper le bâton. Il lui a dit juste de parler au rocher. Et l'Éternel va se fâcher. Mais l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, vous n'avez pas été fidèles et vous n'avez pas honoré ma sainteté aux yeux des Israélites. À cause de cela, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je leur destine. Moïse a été sanctionné, Aaron a été sanctionné pour ne pas avoir obéi à l'ordonnance de Dieu. Parce que la première fois, il a dû frapper, mais Dieu a dit la seconde fois, parlez seulement au rocher. Alors, quand nous regardons tous ces écrits, quand nous regardons tous ces écrits, quand nous suivons ces phénomènes, nous voyons que, quelle que soit la situation, Dieu est au contrôle. Et notre sacerdoce, nous, notre devoir, c'est la peine qu'il nous a donnée d'aller vers lui, de dire, qu'est-ce que nous faisons? Et de nous dire, faites comme ceci, faites comme cela. Et je peux m'amuser à essayer un peu de décrypter la démarche que les anciens ont suivie. Donc, devant une situation, les anciens allaient revoir d'abord Dieu. Et Dieu répondait toujours. Ils recevaient l'ordonnance de Dieu. Hein? Donc, je dirais en mots plus simples, ils recevaient la méthodologie de Dieu, le procédé de Dieu. Et ce procédé, ils ne le gardaient pas pour eux, mais ils le partageaient avec la communauté. Parce que si ça ne sert à rien, si tous ne sommes pas sur la même longueur d'onde, pour que tout le monde puisse exécuter la volonté de Dieu. Et il exécutait intégralement ce que Dieu, justement, avait ordonné. Ensuite, ce n'est qu'ensuite que venait le miracle, parce qu'à chaque fois, Dieu disait qu'il était présent, il disait, je suis devant toi. Ça veut dire quoi? Que devant une situation, lorsque nous allons invoquer Dieu par rapport à la situation, c'est vrai que Dieu se sert de nous, nos bras. Mais Dieu lui-même vient en notre présence pour être à la manœuvre, pour assurer notre défense. Tel que Jésus l'a dit tout au départ, je vous ai dit que vous n'avez pas assuré votre défense. Donc Dieu se met lui-même à la manœuvre pour dire. Et ensuite, il revenait vers Dieu pour une action de grâce, pour remercier Dieu. Alors, donc, quand nous voyons les situations, tout ce qui se passe autour de nous, oui, Dieu exauce. On va prier, Dieu exauce. Mais ce n'est pas pour autant que la maladie va partir. On nous dit oui, il faut un vaccin. Le vaccin, on va le trouver. Mais le vaccin veut déjà dire que la maladie ne va jamais partir parce que chaque année, il faut qu'on aille se vacciner. Mais Dieu dit, moi, si vous faites confiance en moi, je vous écarte de cette maladie, je vous épargne ça, j'assure votre défense. Donc, mon propos, c'est celui, chers frères et sœurs, que nous devons combattre le bon combat, celui de la foi. Ah, vous allez peut-être me dire, oui, mais frère Lubin, oui, toi tu parles ainsi, mais qu'est-ce que tu as reçu de Dieu, toi? Moi, je n'ai rien reçu. Mais Dieu n'est pas obligé de me. Dieu parle à qui il veut. Donc, une intercession de son peuple, Dieu parle à qui il veut utiliser un enfant. Il peut utiliser quelqu'un qui n'est même pas chrétien. Il peut utiliser un pasteur. Il peut utiliser une personne lambda pour nous donner la conduite à tenir. Qu'il en soit